se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, quand Brigitte Lahaye fait son show, c'est le Lahaye Night Show.
Et j'adore ces bruits de chouettes qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance de la nuit. Et puis attendez-vous à commencer cette nuit avec de l'humour et de l'amour, bien sûr. Et puis aussi une surprise. Nos invités sont particulièrement différents les uns des autres. Aujourd'hui, ça devrait donner une sauce plutôt piquante. Alors l'humour, ça c'est sûr, on peut faire confiance à Sandrine Alexis. Elle n'en manque pas et elle sait toujours à propos prendre la voix d'une autre star pour éviter peut-être une question ou un sujet qui l'embarrasse.
Ou pour l'affronter, Brigitte.
Mais absolument. Ma deuxième complice, elle n'est jamais embarrassée lorsqu'on évoque le sexe. C'est Françoise Saint-Père, notre prêtresse du polyamour. Et quant à l'homme qui nous tient compagnie ce soir, vous ne le connaissez peut-être pas très bien, mais j'ai souvent vanté les mérites de son dernier film. Il s'agit du metteur en scène Jérôme Soubiran. Ce film, c'est Ceci est mon corps, je dis c'est parce que il est encore à l'affiche et il évoque dans ce film la sexualité féminine, ce qu'aiment les femmes. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Qu'est-ce qu'un bon amant pour une femme? Mais avant de présenter nos invités, je vais vous donner les sujets de cette nuit. Alors, donc, le sujet, on l'a compris, c'est qu'est-ce qu'un bon amant pour une femme? En love coaching, est-ce qu'il faut jouer de la jalousie pour exciter? Jusqu'où on peut aller? Est-ce que c'est un bon aphrodisiaque? Est-ce que c'est un poison? En testé, on va faire l'amour dans la mer pour vous. La lecture érotique, c'est Françoise Saint-Père qui nous lira un extrait d'un de ses livres, Les Latitudes Amoureuses. Et en love conseil, je vous propose qu'on se chatouille cette nuit. Voilà. Françoise Saint-Père,
oui,
bonjour. Bonsoir.
Bonsoir, Brigitte.
La prêtresse de l'amour.
Oui, mais je pense que c'est un joli titre finalement.
Moi j'aime bien.
Au début, je trouvais ça étrange, curieux, mais finalement avec Jérôme Soubiran et Ceci est mon corps, c'est quand même le révérend de l'amour aussi, puisque c'est l'amour qui touche un prêtre. Donc je trouve qu'on est très bien entre le Saint-Père et le révérend.
Justement, on va présenter notre Saint-Père. Alors Jérôme Soubiran, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir mes sœurs.
Bonsoir
mon père.
Alors Ceci est mon corps, c'est un film qui est sorti déjà il y a plus d'un an, hein, et ça parle beaucoup justement de la sexualité féminine d'une manière un peu nouvelle, je trouve, et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans ce film. Alors je me souviens, vous m'aviez envoyé le DVD, j'avais commencé à regarder, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, on voyait un prêtre qui gambadait dans les rues, et puis après on voit vraiment beaucoup de choses qui parlent bien, intelligemment de la sexualité.
Oui, c'est un peu le prisme du prêtre qui le permet, paradoxalement, parce que c'est un innocent et c'est un homme qui est plein d'amour, qui n'a que l'amour en lui, et donc il découvre ça avec naïveté et finalement bonheur pour nous spectateurs, j'espère.
Sandrine Alexis, bonsoir.
Bonsoir Brigitte.
Alors
bonsoir les invités de Brigitte.
Vous n'avez pas vu le film, hein, vous, contrairement à Françoise et moi-même.
Non. Non, comme m'avait dit, notre invité a fait un film qui s'appelle Ceci est mon corps. Je dis elle a probablement invité Dieu.
Bon, oui.
Voilà. Donc, mais en fait, je me rends compte que voilà.
C'est non, je ne suis que son fils.
Voilà. Mais quand ça...
Et c'est peut-être mieux comme ça. Alors justement, puisque ce film parle beaucoup de la sexualité féminine, j'ai eu envie qu'on donne quelques conseils aux hommes qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont très nombreux après le foot. Ils font une petite pause là et ils nous écoutent. Quelques conseils pour qu'ils soient de meilleurs amants.
Oh là là, quel conseil pour qu'ils soient de meilleurs amants. Écoutez, moi je dis qu'il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de mode d'emploi. Je pense que si le désir est là des deux côtés, c'est toujours ce que je dis, c'est que si on fait pas marcher le cérébral, mais simplement le désir, on est forcément un bon amant. Et puis même si la première fois c'est pas forcément super bien ou un petit peu plus faible, à partir du moment où le désir est là, je pense que instinctivement on a les bons gestes. Alors c'est sûr que effectivement il faut quand même connaître un petit peu peu la physiologie féminine pour arriver au plaisir ultime, je vais dire. Mais pour moi, le désir est le moteur.
Françoise, j'allais dire exactement la même chose. Le bon amant, c'est l'homme qu'on désire. Quand on désire un homme, même les choses les plus simples, les gestes, le bon missionnaire, c'est parfait. Alors que si on désire pas l'homme, il peut nous sortir toutes les 400 pages du Kama Sutra,
ça n'ira pas. Je suis pas d'accord avec
mais
vous.
Mais le bon amant, c'est quand même celui aussi qui n'est pas un forcené de « je veux te donner un orgasme ». Parce que plus on le sent crispé sur l'idée de « faut que je la fasse jouir », moins on a envie parce qu'on le sent bon élève et appliqué. Moi, je préfère quelqu'un de spontané, naturel et qui nous montre qu'il aime notre corps aussi, donc qui le goûte de partout.
Alors ça, c'est vrai. Je pense qu'un homme ne peut pas être un bon amant s'il n'aime pas la femme. Ça me paraît évident. Mais moi quand même, j'ai peut-être un petit peu d'expérience et je me permets de dire qu'il m'est arrivé d'être dans le lit avec un homme qui a priori me plaisait pas plus que ça et avoir été totalement extraordinairement ravie parce que justement c'était un très bon amant. Et à l'inverse, j'ai eu parfois du désir pour des hommes et puis ça faisait un peu plouf.
Ah, c'est bizarre parce que moi, j'ai fait l'expérience justement d'un homme que je ne désirais pas, mais dont tout le monde et toutes ses copines m'avaient dit c'est un amant formidable, donc j'ai essayé, je me suis dit il faut quand même essayer, et dans ma tête je me disais oui, ce qu'il fait c'est vraiment bien, il y a rien à dire, mais comme je le désirais pas, et ben j'étais complètement extérieure et du coup c'était pas extraordinaire.
Moi je pense que je suis, alors après c'est peut-être propre à chaque individu, moi je, mon fonctionnement rejoint le vôtre effectivement, peut-être aussi
celui
Brigitte,
de Françoise,
oui
hein.
Celui de Françoise, peut-être que vous Brigitte du fait aussi de votre expérience vous êtes arrivée à dissocier l'un de l'autre, c'est-à-dire arriver à faire abstraction du désir et au profit de la technique et que ça a réussi à vous emballer.
Oui, mais je pense que s'il suffisait d'avoir du désir pour quelqu'un pour que ce soit formidable, je pense que je serais à la retraite depuis longtemps. Je pense que c'est pas aussi simple que ça.
Il faut simplement qu'ils connaissent parfaitement le corps féminin et qu'ils sachent.
Qu'ils l'écoutent. Moi, je fais une recommandation dans mon film. Je le fais porter à un personnage. Une femme, tu l'écoutes. Et quand c'est fini, eh ben, tu l'écoutes encore parce qu'on sait jamais. C'est peut-être pas fini. Et quand c'est fini, enfin, eh ben, tu l'écoutes encore parce qu'en fait, c'est jamais fini.
Ramène-moi une baguette. Donc, tu l'écoutes encore. Et puis, n'oublie pas d'aller chercher notre fille à l'école. Voilà. Tu l'écoutes encore.
Et tu l'écoutes encore. Ça s'entend aussi encore.
Oui, oui. Encore.
Voilà.
Oui.
Encore et encore. Tu l'écoutes encore et encore.
Encore et encore.
Mais finalement, un bon amant, c'est une femme comme les autres, non? C'est ça.
Il faut qu'il soit homme.
Non, parce que le pénis, on y tient quand même.
Mais pour en revenir au désir,
est-ce que vous avez l'air de dire qu'il suffit d'avoir des bonnes caresses? Non, je crois
que je suis d'accord avec Brigitte dans le fait que on peut désirer un homme et puis qu'il soit un amant, j'allais dire modeste dans la technique, mais ça sera bon quand même parce qu'on le désire. À l'inverse, le désir ne suffit pas totalement. C'est-à-dire que si on a deux hommes désirés face à nous, il y en aura un qui pourra être meilleur amant que l'autre. Là, ça sera effectivement sa façon de connaître le cœur de la femme, de ce qu'il lui fait. Mais sans désir, alors là, on peut mettre le meilleur et le plus bel homme et le plus technicien, ça ne marchera pas.
Ça dépend aussi de l'instant, non? Parce qu'il y a des fois ça marche et puis il y a des fois ça ne marche pas avec les mêmes partenaires et ça se passe à deux. Moi, j'allais dire un bon amant, pour moi, c'est un amant qui a une bonne maîtresse et que la chimie se fait entre les deux.
C'est plus facile d'être bon avec un bon partenaire, bien sûr. Moi qui fais du cheval, si j'ai un mauvais cheval.
J'aurais quand même
c'est
du mal.
Chimie
à deux, c'est vrai.
Mais souvent, l'un ou l'autre peut être pas bon parce que c'est l'un et l'autre en face et que c'est aussi quelque chose qui se passe. C'est pas parce que moi j'ai des copains qui se vivaient comme des mauvais amants et puis qui un jour ont rencontré la femme avec laquelle ils sont devenus les bons amants. Donc c'est assez étonnant, quoi. Pardon. Hein.
Non, mais c'est vrai, c'est sûr.
Ça arrive.
Oui, mais enfin, on peut quand même dire qu'il y a besoin d'avoir une érection, que quelque part le coït soit écouté. Vous voyez, par exemple, moi je trouve ce qu'on dit pas suffisamment aux hommes, parce que finalement, les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des films pornographiques, voire même des films traditionnels où ils voient un homme qui s'agite avec des petits coups secs et rapides sur le corps d'une femme. Mm-hmm. Bon, ça, c'est pas la bonne manière d'être un bon amant.
Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un certain rythme à respecter et à l'écoute.
C'est vrai que c'est le béaba et qu'on est un peu impressionné par le fait que la pornographie nous donne une vision du béaba assez complètement en dehors des clous, quoi. C'est pas la réalité de la sexualité des hommes et des femmes épanouis, quoi.
C'est du bûcheronnage.
D'accord, voilà, c'est du bûcheronnage.
Oui, donc je pense que quand même, c'est parce qu'on reste comme ça à dire le désir, ok, c'est très bien, moi je suis la première à considérer que c'est le meilleur aphrodisiaque, le désir. Mais il y a quand même un mouvement de bassin qui s'acquiert, une capacité à se retenir qui s'acquiert.
Moi, je l'ai toujours dit que si tu veux qu'un Serge, il a écrit « Je vais et je viens entre tes reins ». C'est ça les méthodes, c'est que pour faire un bon amant, tu vois, il faut que tu écoutes les chansons de Serge et tu te laisses porter par les va-et-vient entre tes reins, au rythme de les mélodies que Serge il a écrites. Tu comprends du?
Mais ça, je suis assez d'accord.
Voilà.
Je suis assez d'accord.
C'est moi qui l'ai trouvé la bonne solution.
D'ailleurs, c'est vrai qu'une bonne musique pendant qu'on fait l'amour, ça peut être.
Il y a des musiques orgasmiques, il y a des chansons orgasmiques qui provoquent. Je sais que moi, je suis complètement fan du solo de guitare de la chanson de Michel Polnareff, Je t'aime, où d'un coup, il y a un déclenchement de quelque chose et ça me fait du bien dans le ventre, quoi.
Oui, c'est vrai.
Il y a pas mal
donc,
de chansons.
Donc, un bon amant, c'est quelqu'un qui a une bonne discothèque en fait.
DJ David Guetta, David Guetta.
Non mais c'est vrai que l'oreille est un des sens dominants chez la femme. Donc aidez-vous de la musique.
Et puis la voix, un homme qui parle aussi, une belle voix qui parle doucement comme ça, c'est vrai que ça peut nous enflammer aussi.
Un homme qui est propre aussi, parce que je le dis parce que il y a des textes pornographiques qu'on trouve sur Internet où on a l'impression que les hommes sont persuadés que tout ce qui est crade et sale va nous plaire. Et ben moi je peux dire que non, le crade et le sale, non, ça n'existe pas
c'est
du
eux,
tout.
C'est eux qui ont.
Mais voilà, ils ont dans la tête le côté du crade et sale. De la femme qui doit sentir le fauve, de l'homme qui doit sentir pareil le vieil ours. Se mal laver, et ben moi ça c'est des choses qui sont complètement tue l'amour pour moi.
Comme ça je suis d'accord. Oui.
oui, bien sûr.
Je veux pas dire qu'il doit sentir totalement la savonnette partout.
Voilà.
La fascination du crade, c'est que qu'on trouve beaucoup en ce moment, je trouve dans des textes dits érotiques. Moi c'est pas du tout mon truc.
Mais au-delà de ça, complètement en dehors de ça, pardon Françoise, pour moi, j'ai pu constater en tant qu'homme que j'éprouve beaucoup plus de plaisir à m'embarquer dans l'aventure du plaisir de ma partenaire qu'à chercher juste à satisfaire le mien propre. C'est-à-dire que la femme est quand même beaucoup plus vaste et beaucoup plus ouverte.
Ça, c'est un homme de plus de 40 ans qui parle.
Voilà. Oui.
Avec un peu de route. Mais vraiment, je conseille à mes collègues mâles de tenter l'aventure du plaisir de vos partenaires, parce que c'est quand même, ça mène beaucoup plus loin que quand on va juste chercher le sien.
Et ben voilà
parfois
les conseils
quelques
qu'on...
années, oui,
pour mm-hmm. Voilà parfois. Les conseils qu'on peut vous donner ce soir, et puis tout de suite on va écouter le témoignage d'Anthony et son couple qui a tenté une expérience libertine. Mais avant, on va revenir sur le cas de Yannick qui se plaignait qu'il y a trop de censure. On était avec Emmanuel Pierrat ce jour-là.
RMC, vous aimiez les femmes avant ? Vous allez les adorer.
Bonjour Brigitte, bonjour Emmanuel.
Bonjour Yannick.
Vous avez 29 ans et vous en avez marre de la censure.
Ah ouais, j'en ai marre de la censure et je commence je commence vraiment à sortir de mes gonds depuis quelques mois, parce que quand on enchaîne, alors pour rebondir dans quelque chose de très précis par rapport aux images, il y a plein d'images que j'ai trouvées par exemple très drôles ou très très marquées, etc. Mais moi je pensais par exemple à la jeune femme qui était dans un caddie. Je sais pas si vous vous rappelez de cette campagne d'affichage qui avait dû être enlevée au bout de deux jours par rapport aux associations féministes. D'ailleurs, je vous suis là-dessus, Brigitte. J'en peux plus des féministes, parce que je pense qu'elles desservent leur cause à être aussi têtues et bornées sur certaines choses. Les lois libertines, d'un point de vue plus général, moi j'en ai un petit peu marre, même complètement marre, hein, je dois vous le dire, c'est un coup de gueule. Hein,
allez-y, Yannick.
Non mais vraiment ça me peine parce que moi je suis un petit peu jeune, j'ai pas connu les années 80, mais j'ai beaucoup de respect pour vous, sans vous offenser par rapport à votre âge, mais j'ai beaucoup de respect pour vous qui avez connu les années 70 et 80 pour vivre dans cette société en étant à peu près plutôt bien, parce que les lois sur la prostitution, bientôt les puces obligatoires pour les enfants qui vont naître à partir de mai 2014, j'en ai plein le cul. Les lois liberticides comme ça, on est sans arrêt en train de nous dire d'arrêter de rouler sur la route, on n'a plus le droit de boire un coup, on n'a plus le droit de baiser.
Mais je sais pas, Yannick, vous savez très bien que moi je suis pour une liberté et je suis assez inquiète. Je sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel Pierrat. J'ai l'impression que avant c'était la religion qui était assez censeur, et je trouve que notre
notre laïcité, elle est encore plus censeur, d'une certaine manière, bien sûr, que... Enfin, je trouve que notre état laïque, il marche un peu sur la tête.
Notre état laïque nous demande des choses un peu ahurissantes qui consistent à être, non pas dans notre vraie vie, mais en tout cas dans les images qui nous représentent, à être en bonne santé. Par exemple, on n'a pas le droit de fumer à l'écran, on n'a pas le droit de fumer dans des publicités, on ne peut pas boire un coup dans une publicité. On peut le faire dans la vie réelle, hein. On peut toujours fumer dans la vie réelle d'ailleurs.
Non, mais pas dans les
images de campagne publicitaire, ni dans tout un tas de choses, des bandes dessinées, etc. Et puis surtout, on ne peut pas mourir. Dans mon livre, je montre que les images de cadavres n'existent plus, alors que c'était une grande façon de célébrer les disparus ou les justes morts au 19e siècle. Donc on vous faisait des masques mortuaires, des choses comme ça. Aujourd'hui, on interdit les photos, donc Mitterrand sur son lit de mort, mais des tas d'autres cas. Voilà, donc c'est une société qui aimerait que l'on soit en perpétuelle bonne santé, 5 fruits et légumes par jour et ainsi de suite,
et
dans lesquels on ne peut pas mourir, ce qui est quand même la bonne santé idéale. Hein.
Moi, vous savez ce qui m'ennuie, Brigitte,
c'est que l'accumulation
de toutes ces lois, de toutes ces associations, de tous ces lobbies, de tout ça, je trouve que plus le temps avance, plus ça déresponsabilise et ça infantilise l'humain. Je ne sais pas quel est le but ultime de toutes ces campagnes, de toutes ces associations, etc.
Mais Yannick, je crois que tout simplement, on est dans une société qui a perdu le sens. Et une société qui a perdu du sens, finalement, elle est, comment dirais-je, tout le monde essaye de prendre le pouvoir et chacun y va de ses propres convictions qui sont finalement très personnelles. Encore une fois, je fais de la connaissance et de l'expérience. Et on voit bien que derrière tout ça, ça manque de sens. Et moi, je crois vraiment que... Et je suis ravie de vous entendre, Yannick. Je suis ravie parce que j'entends très souvent des jeunes de moins de 30 ans qui ont envie de redonner du sens à cette société. Donc, ne désespérez pas, Yannick. Prenez le pouvoir et remettez du sens dans notre société.
Oui, c'est ce que je fais. J'ai le tournis. Mais voilà, j'ai des caps. Et j'ai des caps dans la vie. Donc, du coup, ça me fait aller droit. Mais j'en ai marre.
Mais Yannick, par ailleurs, l'exemple que vous avez pris en commençant à intervenir sur la femme dans le caddie du supermarché est intéressant parce que
elle est d'ailleurs dans votre livre.
Oui, elle est dans mon livre, donc photo. Je l'ai reproduite. C'est la pochette d'un disque d'un garçon qui s'appelle Damien Saez et qui l'avait faite donc pour dénoncer la façon dont les femmes pouvaient être marchandisées ou le corps de la femme pouvait être marchandisé.
C'est
et la lecture,
exactement ça.
Vous vous souvenez, la lecture était tellement rapide par les associations féministes, certaines associations féministes et le ministère d'ailleurs des droits de la femme, qui avait oublié de regarder que c'était, tu y avais indiqué, la femme n'est pas une marchandise en sous-titre ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire pour être,
c'est oui, un message allait, contre dans ce, le sens
dans
du
le
féminisme,
sens, évidemment.
Oui.
Sauf que la lecture était tellement rapide dans notre société du zapping permanent, etc., qu'il s'était retrouvé d'un seul coup une demande de avec des plaintes contre sa pochette qui était passée complètement à côté de la lecture qu'il fallait en faire. Donc ça montre bien à quel point notre société perd un peu la raison en ce moment.
Imbécile. Je dirais que la société devient imbécile, infantilisée et déresponsabilisée.
Allons-y, franchement, ça fait du bien, Yannick, vous avez raison. Nous continuons avec Anthony, qui est avec nous. Bonjour, Anthony.
Bonjour, Brigitte. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Vous avez 31 ans, Anthony.
C'est ça.
Et vous êtes en couple depuis 8 ans.
En couple depuis 8 ans, un petit garçon de 3 ans. Moi, j'ai toujours, on va dire, été infidèle envers ma femme, et ce, depuis longtemps. Chose que je lui ai toujours déclaré, hein, je lui ai jamais caché. Donc après, c'est vrai que c'est jamais rentré dans notre vie du familial. Donc ça n'a jamais fait de mal, on va dire, au sein de notre couple. Ça n'a jamais, on va dire, de retour négatif sur mes actes.
Et vous voulez dire qu'elle était au courant de vos infidélités, mais c'était on n'en parlait pas, quoi.
Voilà.
D'accord.
Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que, étant donné que maintenant, avec le temps, les enfants et tout ça, elle s'écoute un petit peu plus, elle écoute un petit peu plus ses envies, ses désirs. Et elle m'a fait part donc d'une envie, c'était de pouvoir, pas forcément faire comme moi, mais de pouvoir avoir un autre homme, de pouvoir rencontrer un autre homme, avoir, on va dire, des conquêtes avec, tout en sachant que moi, je devrais être présent, quoi. Donc, c'est-à-dire partir sur du libertinage.
D'accord, oui.
Donc là après, donc c'est vrai que bon, moi j'ai longuement réfléchi et depuis donc la dernière fois où j'ai souhaité contacter l'émission, nous sommes allés donc en club et donc plutôt un moment sympa, agréable. On a partagé des moments avec un couple et à ce moment-là, par contre, au moment où on devait passer à l'acte, où nous sommes passés à l'acte, impossible d'avoir une érection. Pourtant l'excitation était là, mais impossible. Et du coup, je me demande si je suis fait pour ça ou c'est pas en fait.
Oui, vous avez aucun souci lorsque vous avez une aventure extra-conjugale.
Du tout.
D'accord. Donc il semblerait qu'au fond, alors il y a deux grandes hypothèses hein, dans votre propre histoire. Encore une fois, soit vous n'êtes absolument pas exhibitionniste, c'est le fait d'être devant d'autres personnes, ben vous n'arrivez pas à bander, hein, pour parler clairement. Ou alors vous étiez perturbé par le fait que votre femme pouvait elle aussi avoir des attouchements ou un flirt ou même une relation sexuelle avec un autre homme, et donc ça a pris le dessus sur votre excitation et ça vous a empêché d'avoir une érection. C'est peut-être un peu des deux d'ailleurs, hein, mais si vous voulez, ce sont ces deux paramètres-là qu'il faut prendre en compte. C'est compliqué pour certaines personnes d'arriver à avoir une érection quand il y a des personnes qui nous regardent, parce que c'est quand même c'est peut-être impudique pour vous, alors que en privé vous êtes seul quoi avec votre partenaire.
Je suis pas de nature à être pudique en plus, donc.
C'est peut-être qu'au fond, vous le dites bien au début quand votre femme vous a évoqué le désir peut-être de sortir avec d'autres hommes. On entend bien que ça vous a pas spécialement fait plaisir. Hein.
Après je me dis que j'ai avec tout ce qu'elle a pu on va dire quand même subir, parce que bon, faut savoir que au fond d'elle ça lui a quand même fait du mal. Elle s'est beaucoup questionnée sur notre relation future et tout ça. Après, moi, j'entends le besoin qu'est.
Oui, mais Anthony, on peut sur un plan tout à fait rationnel se dire bon, moi, je la trompe, c'est normal qu'elle me trompe. Moi, j'ai des relations extra-conjugales, c'est normal. Sur un plan rationnel, ça va très bien. Sur un plan émotionnel, on peut se considérer que nous, on a tous les droits, mais que on n'a pas du tout envie que l'autre ait tous les droits. Vous voyez, on n'est plus du tout sur le même registre.
Et puis je crois qu'on peut être aussi très 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 jaloux sans nécessairement se l'avouer, et puis très exclusif sans nécessairement se l'avouer officiellement. Et on peut avoir envie d'avoir un discours très très rationnel, effectivement, comme vous le dit Brigitte.
Vers quoi je dois m'orienter, puisque on parle déjà beaucoup ensemble.
Mais vous savez, Anthony, moi je répète souvent que la transparence ne marche pas. C'est-à-dire que on peut très bien savoir que notre partenaire va peut-être de temps en temps avoir une relation extra-conjugale. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on a envie de le voir, qu'on a envie de tout savoir et qu'on a besoin d'être tout à fait au courant. Je crois que dans votre couple, vous avez l'air quand même d'être assez uni, assez solide. C'est un couple solide. Donc je crois qu'il faut plutôt partir sur une vie commune avec beaucoup de choses que vous faites ensemble. Et puis il y a une zone d'ombre qu'on laisse de préférence pas éclairé.
D'accord.
Et si vous arrivez à continuer sur donc cette confiance de l'attachement et de l'amour que vous portez l'un pour l'autre, ça peut même relancer votre désir pour elle. Et curieusement, ça peut relancer votre sexualité.
C'est déjà ce qui se passe en ce moment. Donc, on repense à beaucoup de choses. Donc, on s'est inscrit sur un site. On a déjà rencontré quelques couples sans forcément que ça aille plus loin. Et on a ce désir-là de le faire ensemble. Elle a aucun désir de vouloir le faire derrière, dans mon dos, sans que je le sache, puisqu'elle, en aucun cas, c'est ce qui l'attire.
Eh bien, à ce moment-là, reprenez tranquillement des soirées en club libertin, faites de toutes petites choses, et puis tout doucement, peut-être que vous allez vous habituer et que vous allez pouvoir avoir des érections tout à fait normales. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien sur le plan anatomique qui ne fonctionne pas. C'est juste qu'il faut vous libérer un peu dans la tête, et ça peut prendre un petit peu de temps. Commencez par flirter en club. On n'est pas obligé d'aller tout de suite dans le grand bain. Hein. Prenez le temps de vous préparer à tout ça. Et comme c'est bientôt le mois de juillet, nous allons nous tremper toutes et tous dans la mer.
RMC, et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et notre show ce soir, c'est avec Sandrine Alexis, Françoise Saint-Père et Jérôme Soubiran. Et on va tester pour vous l'amour dans l'eau, l'amour dans la mer, dans la piscine, dans l'océan, dans la baignoire. Bon, ça c'est peut-être moins fun.
Attention dans la baignoire.
C'est pas pratique.
C'est dangereux, ça peut se faire mal.
Même dans une grande baignoire ronde, c'est encore pire parce que ça dérape. Donc là, on règle la baignoire.
Attention,
la piscine, à part une piscine privée, c'est pas très discret. Il faut quand même bien le dire. Je vois pas très bien comment dans une piscine municipale on peut arriver à faire l'amour. Enfin, moi, j'ai
juste à l'heure de la sortie.
Oui.
Sauf si certains ont envie d'être vus, hein. Après,
oui,
c'est...
ça peut arriver.
Ouais, mais bon, là, c'est outrage.
Voilà, autre chose. Non, mais moi, voilà, je vois tous les cas de figure, Brigitte.
Oui, d'accord. Ou alors on y rentre discrètement la nuit.
Non, mais la mer, c'est ce qu'il y a de mieux. En plus, c'est beau, il y a le paysage.
Et puis l'eau nous porte mieux, hein, nous c'est de l'eau salée, donc voilà.
On peut partir au large.
Oui, complètement, complètement.
Ça devient une symbolique.
Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais dans la mer, c'est très pratique de ne pas se faire repérer.
J'ai jamais fait dans la mer, je sais pas. Non, je connais pas. Non, par contre, ce que j'aime dans la mer, c'est effectivement, on se retrouve dans l'eau, on se tient, on s'accroche, on se caresse, la femme s'accroche à l'homme comme si elle redevenait une petite fille, les cheveux sont mouillés, on s'embrasse, la peau est mouillée, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez pur, d'assez protecteur et en même temps très excitant. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien. Alors après, non, je pense que ça doit être une partie un peu d'acrobatie dans la mer.
Non, pas forcément. Non. Alors l'inconvénient, c'est qu'évidemment, on peut pas mettre de préservatif, signalons-le quand même, parce que de toute façon, avec l'eau, ça marchera pas.
J'avais pas pensé à ça, c'est vrai.
Non, parce que surtout penser aux poissons, c'est sûr qu'après, les poissons, bah, ça traîne au fond des mers, c'est pas propre, et puis
c'est dangereux pour eux.
Ça peut les étouffer.
Mais ça serait même dangereux pour eux.
Ouais, oui.
Mais l'idéal, c'est la position de la levrette. Une levrette aquatique, c'est pas mal.
Une levrette aquatique.
Ah oui, mais la levrette aquatique,
on dirait que c'est un poisson de mer.
Alors, il faut être dans un endroit où on a quand même un peu pied.
Non, parce que sinon, vous nagez la brasse, oui. Tout comme si vous nagiez la brasse, et l'homme vient par derrière, Françoise.
Ah oui, oui.
Ça, c'est
oui, comme il s'accroche un petit peu sur... Oui, ouais, comme oui. Ça vous fait pas couler.
Ben, enfin non, on est porté par l'amour et le désir.
Ah oui, d'accord, oui, je vois. Oui.
Non, ce qui est pas mal aussi,
c'est un tuba, quoi.
Ah oui. Si on a un petit peu de capacité en apnée, ce qui est pas mal, c'est la pipe, enfin la fellation sous l'eau.
Ah oui, mais moi je déteste mettre la tête sous l'eau. Alors
ah
là,
oui, d'accord. Là, moi j'ai tenté, on y arrive en 2-3 fois.
Oui. Mais en plus, on doit avaler un peu d'eau de mer.
Non, justement, c'est ça le deal, c'est d'arriver à le faire sans se noyer. Quoi. Donc il y a un peu d'excitation.
Sans se noyer, c'est mieux. Oui.
Voilà, il y a un peu d'excitation. Là, le goût est bon. Il y a un petit côté marin, un petit goût marin qui est agréable.
Mais c'est une micro-fellation. C'est-à-dire qu'au bout de quoi, 5 secondes, il faut remonter à la surface.
On peut
tenir 20-30 secondes, on remonte, on recommence. Et alors, le souffle, le monsieur est en pleine excitation. Non, c'est pas mal du tout.
Oui, si on accepte l'idée de mettre la tête sous l'eau, voilà, ça doit être sympa. Ça. Puis c'est original, au moins. Ça laisse un souvenir de vacances.
Ouais, c'est voilà. Rigolo.
Et puis les gens qui regardent depuis les voiliers se disent, mais qu'est-ce qu'ils font à monter, à descendre comme ça?
Il y a un dauphin qui mord un hameçon. Voilà. C'est curieux.
Et sinon, il y a la position où l'homme est debout. Enfin, il faut être au bord de la mer par au large. Où l'homme est debout et la femme vient s'enlacer. Ah, oui. Voilà. Et là,
c'est
elle est très légère, puisque l'eau salée est d'autant plus.
Là,
ça, c'est assez merveilleux.
Voilà, il faut
qu'il ait pied.
Là, il faut qu'il ait pied. Voilà.
C'est toujours plus ennuyeux parce que là où on a pied, il y a plus de monde.
Voilà, mais il y a des heures ou certains endroits où il n'y a pas grand monde. Et puis ça peut être assez discret en fait. Ça peut paraître juste un enlacement comme ça, ordinaire. Et
oui, il y a des petites criques discrètes.
Quelques plongeurs par-dessous viennent. Et si les poissons se ramènent, il y a des poissons voyeurs, il faut faire attention, c'est une nouvelle race. Au Cap d'Agde, il y a des poissons voyeurs maintenant, il faut faire très très attention. Mais sinon, non, c'est.
Mais ça, c'est très agréable, oui, ça.
Les poissons voyeurs, ça doit être très très sympa, oui.
Qui viennent, ils peuvent participer un peu. Enfin,
c'est des petits.
Non, les chatouilles, c'est le conseil de tout à l'heure.
Ah, c'est le conseil de tout à l'heure.
Bon, bah donc, c'est plutôt sympa. Hein.
Écoutez, je vous dis, je reviens au mois de septembre et puis je vous raconterai.
Ça fait vacances en tout cas.
Et en rivière, alors on n'a pas parlé de la rivière. En rivière, c'est plus compliqué.
C'est froid déjà.
Ah, c'est froid. Il y a des rivières chaudes aussi quand même. Non,
c'est dans certains. En France, je ne connais pas.
En France, c'est vrai.
Et alors, quand c'est froid pour le monsieur, c'est très mauvais. Ça lui ratatine.
Ça rétracte un peu les coucougnettes.
Oui, après, c'est très difficile.
Oui.
Non, c'est une réanimation dont tu as la spécialité.
C'est le problème du lac aussi, c'est froid.
Oui.
Tout ça.
Non, il n'y a qu'en mer chaude sous les tropiques que c'est vraiment bien. Quoi.
Non, mais même
Méditerranée,
en mer,
Méditerranée en été, c'est bien.
Même l'Atlantique, si, cette année, il ne fera peut-être pas trop froid, non?
Je sais pas, moi, à 20 degrés, je trouve qu'il fait un peu frais pour ce genre d'activité.
Mais ça réchauffe, Françoise.
C'est vrai.
Mais c'est quand même bien. Enfin, pour moi, à vous écouter, ce que je préfère, c'est après la baignade, quand on rentre, on a bien nagé, etc. On est à la fraîche, la petite clim et tout. Et là, tous les sens ont été un petit peu stimulés par la mer,
donc
par l'eau.
On flirte dans la mer et on va se retrouver dans le lit après.
Moi, je serais plus comme ça. Oui.
Mm-hmm. Bon.
Voilà le j'ai testé qu'on a justement mis en pratique pour vous. Et puis tout de suite, je vous propose d'aller voir peut-être le Wikisex si vous ne connaissez pas encore. C'est un rendez-vous sur rmc.fr sur lequel on trouve toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur l'amour, la sexualité. Et puis on écoutera également l'intervention de Pauline, une vraie femme fontaine. Et puis on va écouter également le docteur Dailou qui nous avait expliqué que les IST n'étaient pas forcément visibles avant cet été. C'est peut-être important de réécouter le docteur Dailou.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Late Night Show.
Assez souvent, maintenant, asymptomatique. Asymptomatique, c'est-à-dire que tout au départ, il n'y a pas forcément des symptômes bruyants comme on trouvait il y a un certain temps. Et moi, je vois de plus en plus, par exemple, pour la syphilis, qui est une maladie normalement chez l'homme avec un chancre ou chez la femme une lésion au niveau de la vulve avec une adénopathie, bien quelquefois, on voit des gens, et assez souvent, qui arrivent au stade secondaire de la maladie, c'est-à-dire qu'ils l'ont de façon asymptomatique, et qu'on appelle, bon, avec d'autres symptômes, par exemple une éruption cutanée, ce qu'on appelle une roséole, et donc par conséquent les gens ont déjà cette maladie depuis un certain temps. Voilà, donc les choses sont beaucoup plus à bruit qu'avant, de façon un peu bruyante.
En tout cas, vous posez vos questions, c'est ce que fait Jérôme qui est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Jean-François qui est avec nous. Donc vous posez la question des risques de transmission avec un cunis, c'est-à-dire ce qu'on peut attraper lorsqu'on fait un cunis à une femme, c'est ça, hein, c'est bien ça votre question?
Oui, c'est ça, oui, tout à fait.
Alors, qu'est-ce que l'on peut attraper quand on fait un cunis? Donc, c'est vrai que, Jean-François Dailou, disons-le clairement, une fellation, encore, c'est assez facile de faire une fellation avec un préservatif. Bon, un rapport sexuel, c'est assez facile, évidemment, de mettre un préservatif. Pour le cunis, me parlez pas de la digue dentaire, parce que franchement...
On avait parlé l'autre fois.
excusez-moi, mais...
Hein, absolument, absolument.
À ce moment-là, mieux vaut prendre ses doigts ou un jouet. Hein.
Oui, absolument.
Donc, un cunis... Est-ce qu'on peut se protéger? Comment? Et qu'est-ce qu'on risque?
Il y a les hépatites.
Hépatite B, donc.
Oui,
hein.
Les hépatites B. L'herpès, quand même, qui peut être...
Mais alors, sur la bouche, donc, hein.
Oui, mais bon...
Enfin, quand même, on le voit, si une femme à qui on fait un cunis et un herpès...
C'est vrai. C'est
franchement,
vrai,
c'est vrai. Bon, on va. Là, allez, on supprime la case herpès.
Voilà. Pas d'autres. Enfin, comme ça, je verrai pas d'autres IST lors du cuni.
Oui, mais c'est un peu mon avis. Hein. Moi, j'ai souvent dit que le cuni était pratiquement sans risque. D'ailleurs, disons-le clairement, Jean-François Dailou, chez les lesbiennes, il y a pratiquement, enfin, les femmes qui sont donc lesbiennes et qui n'ont pas eu de transmission de sang, il y a pratiquement pas de cas de sida.
Très peu, oui. Très peu, très peu.
Donc on voit bien que c'est pas des risques énormes de pratiquer un cunis. Donc vous pouvez continuer, Jérôme.
La fellation, oui, mais le cunis, non. Ça a moins de risques, quoi. Il n'y a pas de risque sur le cunis.
Le risque est moindre.
On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque, hein, Jérôme. Vous comprenez bien. Il y a forcément, il peut forcément y avoir des risques, notamment si vous avez une plaie dans la bouche et que cette femme, par exemple, a ses règles. On peut penser qu'il peut. Vous voyez.
Et puis ça dépend aussi, des pratiques. Je veux dire, si à ce moment-là on a un doigt qu'on va mettre, je veux dire, à différents endroits pour revenir, c'est là à ce moment-là que peuvent faire à ce moment-là les hépatites ou des choses comme ça. Je veux dire. Donc il faut aussi faire attention. Si on fait exclusivement un cunis, c'est vrai, sans d'autres pratiques avant ou après, donc par conséquent, on peut dire qu'il n'y a pas de risque.
Voilà.
Très bien.
Bonjour Pauline.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité.
Bonjour.
On a essayé avec mon conjoint, parce qu'il a eu des femmes fontaines dans son passé. Il m'a dit que oui, tu verras, il faut lâcher prise, c'est sympa. Et donc, effectivement, j'ai lâché prise et c'était sympa. Mais je sais pas, il y avait comme une odeur un peu bizarre dans ce liquide et je sais pas si ça d'où il provient en fait.
C'est encore et toujours un grand mystère pour beaucoup de médecins, de sexologues. Il y a des avis très partagés. Je conseille toujours le livre de Elisa Brune qui est formidable. Il y a tout un chapitre qui doit faire une centaine de pages où elle explique toutes les théories sur ce liquide des femmes fontaines. Donc voilà. Mm-hmm. Moi j'ai pas un avis très tranché non plus et j'ai presque envie de dire qu'est-ce que ça peut faire si ça donne du plaisir? Jean-François Dailou, vous êtes médecin, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet?
Alors, il y a des choses qui peuvent être désagréables pour certains partenaires, mais je veux dire, si les partenaires, ça ne les gêne absolument pas. Donc, par contre, les avis scientifiques, je crois qu'on n'est pas encore dans les connaissances suffisamment avivées.
D'accord, ok. Mais effectivement, c'est vrai que c'est très agréable.
Et votre partenaire, ça ne le gêne pas?
Ah non, non, pas du tout,
Mais au contraire, mais, oui, c'est ce qu'il recherche. Alors, il ne faut pas non plus que ça soit un objectif absolu, hein, Pauline. Il faut que ce soit dans le plaisir, dans la détente. Bon, moi, ce que je peux juste dire, encore une fois, c'est qu'on parle des glandes de skin. Ce serait une sorte de résidu de prostate féminine. Donc, je crois qu'on est un peu dans le vrai. C'est une sorte de lubrification intense, voilà. Certains disent qu'il y aurait un peu d'urine. Moi, j'y crois pas beaucoup.
Mais du coup, ça sort par le vagin ou par l'urètre?
Il y a eu des descriptions quand même de femmes fontaines qui étaient extrêmement une source de jouvence. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un moment de l'urine?
Alors, c'est possible
ça,
que parfois...
J'ai entendu certaines partenaires qui disaient que ça allait même jusqu'à une hydratation très, très importante. Et donc là, il y a une urine. Ouais. Mais en général, bon, c'est... une abondance de liquide, mais pas, je veux dire...
Alors, rassurez-vous, Pauline, le vagin, il transpire.
Oui.
Quand le vagin lubrifie énormément, c'est de la transpiration, en quelque sorte. Hein, j'essaye d'être claire pour que tout le monde comprenne bien. Bon, quand il y a ce phénomène fontaine, c'est une sorte de jet supplémentaire qui peut tout à fait aussi transpirer par les parois du vagin.
D'accord, ok. Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que j'en deviens un peu addict à ça, parce que à chaque fois que j'ai envie de jouer, je fais en sorte que ça vienne.
Oui, mais parce que pour une femme, quand ça vient, justement, il y a un peu cette sensation d'éjaculation, il y a un peu cette sensation que tout d'un coup ça part et qu'on est au bout du bout d'une jouissance.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
Et ensuite, on se sent un peu épuisé. D'ailleurs, on conseille de reprendre des, je crois que c'est du magnésium, hein, c'est ça.
Par exemple, l'homme, il y a des hommes qui lubrifient de façon plus importante que d'autres. Donc c'est la même chose, alors un cas particulier peut-être pour les femmes fontaines, c'est une lubrification quand même intense. Mais je veux dire quand même, il y a une différence entre certaines femmes et d'autres.
Bah merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie, Pauline. Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Bonjour Linda.
Bonjour.
Vous avez 24 ans et justement, vous allez bientôt vous installer avec votre ami.
Oui, c'est ça. En fait, mon copain, lui, on est ensemble depuis 4 ans et on a toujours vécu une relation à distance. Donc, après, bon, lui, il vit avec sa petite sœur et il a discuté avec elle et je m'entends très bien avec elle et elle m'a parlé, elle m'a dit en fait il aimerait bien vivre que vous viviez ensemble et tout, parce que là elle est déjà posée et tout, donc il voudrait que vous vous installiez. Donc après j'ai un peu peur parce que je sais pas, bon sur le plan sexuel en fait c'était très bien parce que bon, je sais pas, c'était toujours, puisque on se manquait, il y avait le fait que on revenait toujours, bon, après un mois de distance et tout, voilà. Et maintenant je me dis si on vit chaque jour ensemble, est-ce que ça sera toujours pareil, est-ce que ça sera toujours
voilà. Vous avez peur finalement de la routine, quoi, de
voilà.
Alors,
exactement.
En même temps, puisque vous étiez à distance, c'est vous qui allez venir dans sa région, c'est ça?
Oui, parce que moi, en fait, je suis en formation. Mais après, je vais chercher du boulot, donc principe, je pourrais trouver du boulot un peu partout.
D'accord. Mais est-ce que ça vous fait quitter beaucoup d'amis et beaucoup de d'attaches, le fait de quitter?
Non, pas
spécialement.
Pas du tout. Au contraire, la région où lui vit en ce moment, c'est là où ma famille vit aussi.
D'accord.
Donc c'est moi qui suis en fait partie de départ.
D'accord.
Pour
donc
l'école
c'est plutôt...
et autres.
D'accord, c'est plutôt un retour aux sources pour vous finalement de venir habiter avec lui.
Oui.
D'accord, donc ça c'est plutôt un bon point parce que c'est toujours très compliqué quand on quitte un peu ses repères hein, pour vivre avec quelqu'un. Donc ça c'est pas le problème. Alors moi je crois qu'il faut vraiment voir les choses différemment, Linda. Quand on se met à vivre ensemble, ça change forcément la donne et ça change forcément la relation. Il faut pas espérer avoir les mêmes rapports sexuels quand vous allez être ensemble tous les jours que ce que vous avez maintenant, évidemment, quand vous vous retrouvez après un mois de séparation.
Mm-hmm.
Alors ça a des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, ça construit une relation très profonde, ça crée plus de confiance, ça peut aussi cristalliser votre histoire.
Oui.
Donc il faut savoir si vous avez envie vraiment, enfin d'abord si vous aimez vraiment cet homme et si vous vous sentez prête pour une véritable histoire, parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas encore envie vraiment de vous engager.
Ouais. D'avouer que ça me fait un peu peur, en fait, parce que moi, j'ai toujours été seule. Moi, j'ai toujours vécu seule, j'ai toujours fait mes trucs, voilà, j'ai toujours vécu comme ça, quoi. Donc, maintenant, aujourd'hui,
mais qu'est-ce que
ça fait quatre ans qu'on est ensemble et qu'on vit ça comme ça. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, c'est pas très arrangeant tous les jours. C'est vrai, il y a des fois où j'aimerais vraiment qu'il soit à côté de moi.
Non, mais Linda, d'abord, est-ce que vous aimez cet homme? Ça, c'est la première question. Bon,
oui,
d'accord.
Ça, c'est clair.
Et ensuite, vous pouvez très bien vivre avec quelqu'un tout en ayant une indépendance et une capacité à faire tout ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous allez vivre avec cet homme, d'être 24 heures sur 24 avec lui. Il faut en revanche, il faut dès le départ imposer vos conditions. Donc peut-être que vous pouvez essayer de voir comment vous allez garder votre jardin secret, garder votre indépendance tout en vivant avec lui. C'est pas impossible. Si vous aimez sortir avec des copines, si vous aimez, je ne sais pas moi, si vous avez des passions que vous avez envie de garder, c'est tout à fait possible. Mais il faut dès le départ être très clair là-dessus. C'est parce que l'erreur que font beaucoup de femmes, c'est plutôt les femmes qui font ces erreurs-là d'ailleurs. Elles viennent, elles s'installent auprès d'un homme et puis avec tout notre inconscient collectif de la femme soumise, on renonce un peu à plein de choses qui nous plaisaient beaucoup sous prétexte qu'on est devenue la femme de quelqu'un. Et ça, c'est ensuite très compliqué à récupérer.
Ouais.
D'accord. Alors, avant d'aller vous installer, faites la liste de ce qui compte pour vous, de ce qui est vraiment important de garder, et faites-lui en part.
D'accord.
Et puis, j'ai bien entendu que vous avez peur. Il faut aussi mettre des mots sur votre peur, parce que la peur, ça cache beaucoup de choses et ça cache parfois vraiment un désir. Si ça se trouve, c'est un grand désir de devenir l'épouse de cet homme. Moi, je n'en sais rien. C'est vous qui pouvez le savoir.
C'est pas faux.
Eh ben voilà. Vous voyez que les peurs, parfois, elles sont pas si négatives que ça.
Hein? Ouais.
D'accord.
Ouais. D'accord.
Bon.
En tout cas, merci beaucoup, Brigitte.
Je vous en prie,
merci.
Linda. Merci à vous.
Au revoir et merci pour votre émission. C'est très apaisant pour les gens qui se posent beaucoup de questions.
Mais rassurez-vous, on s'en pose tous, surtout quand on est très jeune. Et puis avec le temps, on apprend à peu près à mieux gérer nos émotions et notre affect. Avez-vous tendance à être un peu jaloux? C'est la question que je vais poser à nos trois invités de ce soir.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
Et nous allons évoquer comme love coaching ce soir la jalousie. Est-ce que c'est un aphrodisiaque ou est-ce un poison? Alors tout va dépendre évidemment du degré de jalousie de votre partenaire. Sandrine Alexis, Françoise Saint-Père, Jérôme Soubiran sont avec moi ce soir. Françoise Saint-Père, je vous pose pas la question, vous n'êtes pas jalouse en tant que prêtresse de l'amour polyamoureuse?
Non, je suis pas jalouse. J'essaye quand même de connaître des hommes qui ne sont pas jaloux, sinon ils seraient très malheureux. Donc non, la jalousie c'est pas un sujet pour moi.
Donc ça peut pas être ni un aphrodisiaque ni un poison au fond pour vous?
Si ça existe, c'est un poison. Il m'est arrivé de ne pas vouloir avoir de relation avec des hommes qui étaient jaloux parce que je me suis dit ils vont me faire la vie impossible et ils vont se faire la vie impossible.
Bien sûr.
Voilà. Donc non, j'évite la jalousie.
Donc on va essayer de faire un love coaching avec Sandrine et Jérôme. la jalousie, parce que on a maintenant, grâce aux neurosciences, montré à quel point c'était normal d'être attiré par ce qu'a l'autre. C'est par exemple, vous êtes en train de boire du café, moi je vous regarde. Sandrine Alexis, et instinctivement mon cerveau boit du café. Donc si je vous vois avec un bel homme qui est en train de l'embrasser et que vous avez l'air d'être très très bien, ben moi aussi j'ai envie d'embrasser ce bel homme. Ah. C'est un fonctionnement humain qui a été démontré grâce aux neurosciences.
Les fameux neuromiroirs.
Exactement.
Le désir mimétique dont René Girard parlait 50 ans avant.
Et Jean-Michel Gourlian vient souvent nous parler de tout ça. Ce qui fait que ça explique mieux pourquoi on a souvent du désir pour le partenaire de notre meilleur ami ou l'épouse de notre meilleur copain. Il y a la loi sociale qui a posé des véritables interdits qui sont forts, donc du coup on le refoule les trois quarts du temps. La jalousie peut être justement un aphrodisiaque grâce à ce principe-là. Et c'est vrai que quand on est en tant qu'homme ou en tant que femme dans une soirée et qu'on est un peu courtisé par d'autres,
ça peut très vite provoquer une sorte d'excitation de notre partenaire.
Ah et ça, c'est bien.
C'est là où je dis qu'à ce moment-là, la jalousie est un aphrodisiaque. Mais
oui,
est-ce qu'il faut l'utiliser souvent? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça le coaching ce soir.
Personnellement, non. Moi, je pense que ça s'utilise pas. Je pense que si on a envie, quelque part, d'attirer l'attention de son compagnon, de le rendre un tout petit peu jaloux, en tout cas inquiet, pour moi, la meilleure solution, c'est de continuer à être jolie ou lui d'être beau et justement de se dire oh là là il s'entretient, il est beau, et puis de voir de sortir avec des copines sans la compagne, etc., sans le compagnon, d'avoir toujours gardé son indépendance pour que l'autre finalement se dise elle m'appartient pas totalement, j'ai confiance en ses sentiments, mais en même temps à tout moment elle peut m'échapper. Et en faisant ça au quotidien, je pense que ben voilà, ça suffit à mon avis, simplement plutôt que de provoquer des choses. Ça fait un peu gaminerie quand même, oui. De jouer je vais te rendre jaloux, je vais faire ça, ça fait un petit peu, c'est un petit peu gaminerie. Moi j'irais sur un truc plus malin, plus intelligent, car je suis extrêmement intelligente.
Si c'est une pure manipulation, ça donne un côté un peu glauque, un peu pervers entre guillemets, vu de l'extérieur. Maintenant, je sais pas comment. Par contre, être avec une femme désirable et désirée, c'est tout à fait agréable. Et se sentir soi-même,
ça, c'est un aphrodisiaque.
Voilà, et se sentir soi-même désirable et désiré, c'est à la fois un plaisir pour moi et je pense pour mes partenaires. Donc
oui,
donc
mais là c'est pas de la jalousie. C'est simplement on sait qu'elle est belle ou qu'il est beau et voilà. Ça relève pas de la jalousie.
Comme disait Brigitte tout à l'heure, c'est le début de la jalousie. C'est le processus. Voilà. Alors, il semblerait, vous, Françoise Saint-Père, que vous l'arrêtiez à un stade.
Non, je l'arrête pas. C'est que pour moi, c'est un sentiment qui ne m'a. Je suis un petit peu comme vous. C'est-à-dire, je me dis, je suis contente de connaître un homme qui peut plaire. Quand il me dit, oh là là, je vieillis, je vais plus plaire, ça m'ennuie. Et ça m'ennuie pour lui parce que ça peut le gêner, mais pour moi aussi, parce que je trouve ça très plaisant de me dire que des copines me disent, qu'est-ce qu'il est chouette.
Oui, c'est ça.
Un mot en fait, parce qu'il y a deux jalousies. Il y a la jalousie dont on parle et qui peut être excitante, mais qui, du coup on a du mal à l'appeler la jalousie, parce que la jalousie est quand même connotée comme un sentiment très très chiant qui juste nous pourrit la vie. C'est-à-dire que soit je l'ai été quand j'étais jeune, je pense que je suis beaucoup moins, mais soit je suis jaloux et ça me pourrit la vie, ça m'empêche, soit je suis avec une femme jalouse et c'est juste invivable. Presque deux mots, il faudrait presque trouver un autre mot pour parler de la jalousie positive, entre guillemets.
C'est un sentiment humain et j'allais dire. Alors normal, la jalousie
plutôt que la jalousie.
Oui, c'est pas.
Enfin, je veux dire, donnez-moi l'envie d'avoir envie.
Si on est absolument plus jaloux du tout, c'est qu'on se fout complètement de l'autre. Devient le centre de notre propre monde.
Non, le fait de ne pas être jaloux ne veut pas dire qu'on est indifférent. Je veux dire, si j'ai un homme que j'aime et que je le vois courtiser ou même draguant une autre femme, je ne suis pas indifférente. Je les regarde avec intérêt.
Il m'est arrivé de jouer la jalousie pour rassurer une partenaire parce qu'elle trouvait ça insupportable que je ne sois pas jaloux. Ça voulait dire que je ne la désirais pas assez, qu'elle ne comptait pas pour moi. Donc j'en venais à jouer, à lui offrir des petites scènes de jalousie, discrète, gentille.
Monsieur est comédien.
Voilà.
C'est-à-dire que si, moi je sais que j'étais assez jalouse, un petit peu plus jeune, dès qu'une fille regardait mon compagnon, parce que celui avec lequel je suis actuellement, mais sur mes premières expériences amoureuses, je supportais pas. Je pense que ça me renvoyait aussi à mon manque de confiance, et puis manque de confiance des sentiments qu'on pouvait me porter aussi. Alors que là, je suis sûre des sentiments qu'on me porte. Donc quelque part, ça m'a donné confiance. Aujourd'hui, quand mon compagnon, qui c'est vrai est quand même pas mal, s'il est regardé, etc. Mais quelque part, ça me fait j'observe ça et je me dis ouais, mais c'est moi qui l'ai, il est à moi. Et puis après, il faut pas non plus qu'il dépasse les bornes,
mais ça ne laisse pas, ça vous laisse pas indifférent.
Ne pas dire que ce soit de la jalousie. Je vais dire que c'est au contraire, c'est tiens, il serait capable. Oui. Il serait capable si j'existais pas là ce soir, dans cet instant là maintenant, il rencontre cette fille, il passerait peut-être un cap.
Ça renforce votre désir pour lui.
D'accord, absolument.
C'est bien ce que je voulais dire, c'est que finalement...
Ah d'accord, oui, alors c'était peut-être le terme de jalousie qui allait passer, c'est l'effet de l'excitation.
Mais voilà. Parce que vous imaginez tout de suite que parce que vous reconnaîtriez que vous êtes un peu jalouse, ça voudrait dire que vous n'êtes pas suffisamment
libérée. Non, mais moi j'ai dit que j'ai été jalouse, mais je ne suis plus du tout
pareil. Moi c'était pareil, jeune j'ai pu être jalouse, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi.
C'est comme s'il y avait un niveau de jalousie à ne pas atteindre, c'est-à-dire qu'en deçà de ce niveau de jalousie, c'est excitant, et à partir de là, ça devient juste chiant, quoi.
Oui, surtout si...
Exactement.
Non, je crois plutôt que c'est qu'on est jaloux vraiment quand on n'a pas confiance. Et effectivement, la confiance enlève la jalousie.
C'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas, un peu de jalousie, c'est quand même un bon aphrodisiaque. Vous l'avez compris, trop, c'est un poison. Et puis, on va écouter Christophe qui va évoquer son premier chagrin d'amour. Et puis, puisqu'on parle de chagrin, je vous propose d'écouter ce que Daniel Marcelli nous avait dit sur l'impact non négligeable des chagrins d'amour chez les très jeunes.
RMC, c'est le Lae Night Show.
Avec vous, Daniel, j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de ces chagrins d'amour très précoces dans des moments pré-adolescence, oui. qui peuvent parfois amener jusqu'à des vraies déprimes ou voire le suicide. Et il faut pas prendre trop ça à la légère quand on est parent. Hein.
Oui, oui. En tout cas, on va dire plutôt le tentative de suicide que le suicide accompli. Alors pourquoi cela? Parce qu'effectivement, l'individu fait pour la première fois l'expérience de sa dépendance à l'autre, à un moment où justement le jeune adolescent, on ne cesse de lui répéter qu'il va devenir autonome, et le jeune adolescent, il veut précisément gérer sa vie, enfin, etc., etc. Et là, d'un seul coup, avec l'arrivée de la puberté et de la sexualité, il fait l'expérience qui est l'expérience de la vie entière, il va dépendre du bon vouloir d'autrui, et il va dépendre des affects et des émotions d'autrui. Tant qu'on dépend des émotions de papa-maman, c'est relativement facile. D'abord, on les connaît, ses parents, on sait comment les faire avec.
En principe, on sait qu'ils nous aiment.
Voilà, en principe, il y a un affect partagé. À partir du moment où il faut aller chercher à l'extérieur de la famille un amour, eh bien effectivement là, on n'est plus trop sûr de l'état affectif de l'autre, et on rentre dans ce qu'on appelle l'altérité du désir, c'est-à-dire on ne sait jamais quelle est la position désirante de l'autre. Et le premier amour, c'est effectivement une rencontre, et c'est d'abord et avant tout une ouverture de soi à l'autre, c'est-à-dire il y a une effraction, il y a une sorte de dissolution de soi-même, qu'on va retrouver après pour certains dans les coups de foudre qui vont être justement des ressucés
si on peut dire
de ce premier amour. Et donc pour vivre ce premier amour, faut prendre le risque, un, de se faire avoir, deux, accepter de se perdre soi-même. Et si on veut pas prendre ces deux risques-là, on sera jamais amoureux dans la vie et on pourra pas entrer dans ce premier amour. Mais évidemment, le risque, c'est la rupture, c'est la danger, le danger.
La perte.
Voilà, et c'est pour ça que je dirais que le premier amour, c'est une déchirure de soi. Écrivez-le le soi comme vous voulez. Une déchirure soyeuse, mais c'est aussi une profonde déchirure de soi, parce que là, on fait l'expérience, après, de la solitude, qui, d'une certaine manière, est le lot de tous au cours de nos âges, à partir du moment où on est des individus sexués.
Et autre question, Daniel Marcelli, moi j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui vont plus souvent être quittées et d'autres qui vont plus souvent quitter. Vous avez un éclairage sur ces tendances-là?
Est-ce que chacun rejoue quelque chose de ses relations parentales, de son histoire d'enfance, de la certitude qu'on aura toujours une mère qui, quoi qu'on fasse, vous pardonnera, continuera à vous aimer, qu'on peut faire les pires bêtises qu'on veut, elle sera toujours là pour vous récupérer, donc on peut s'autoriser tout, ou au contraire qu'on a fait l'expérience de quelqu'un, du sentiment d'être, alors c'est peut-être pas nécessairement vrai, mais c'est le sentiment subjectif de chacun, qu'on est aimé qu'à la condition qu'on fasse ceci ou cela, qu'à la condition qu'on soit conforme à ce qu'on imagine qu'on attend de nous, et qu'il faut absolument qu'on se soumette à ça. Voilà, c'est tous ces éléments-là. Avec un élément supplémentaire, je crois, quand même, surtout quand les amours durent, les relations durent, c'est que chacun évolue, et n'évolue pas toujours de la même manière, et à la même temporalité que l'autre. Et donc, cette conjonction-là est particulièrement difficile à maintenir dans la société actuelle.
C'est la fameuse alchimie de la relation, oui. Évidemment. On va donner la parole à Christophe pour commencer. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Daniel, bonjour Brigitte, vous allez bien?
Bonjour Christophe.
Ben, pour l'instant ça va, on n'est pas en chagrin d'amour.
Je vous appelle parce que je voudrais témoigner. Moi je l'ai été en chagrin d'amour, j'ai même eu un double chagrin d'amour.
C'est-à-dire
que j'ai, J'ai rencontré quelqu'un après mon divorce.
Oui.
Et ça se passait bien, sauf que je trouvais qu'elle se laissait un petit peu, la personne se laissait aller, alors que moi j'avais beaucoup de sentiments. Et par rapport à ça, j'ai pris une décision un peu rapide en laissant tomber la personne. Et j'ai regretté. Et donc j'ai regretté, mais elle a, comment dire, j'ai voulu après la reconquérir et elle n'a pas voulu. Donc j'ai été très malheureux. Et
c'était peu de temps après votre divorce que vous l'aviez rencontré?
Un an et demi après.
Oui, donc c'est relativement récent, oui, oui.
Ouais,
donc du coup, ça redonne une sorte de sensation de perte comme votre divorce, quoi.
Tout à fait, parce que le divorce, un divorce, c'est toujours difficile et j'ai eu le cas aussi du divorce qui était difficile. Et en plus, je quittais cette personne-là et je m'apercevais quelques temps, très peu de temps après, que je regrettais ma décision, donc j'ai voulu la reconquérir, et elle n'a jamais voulu revenir, dans un premier temps, donc j'ai été très malheureux, et à un moment donné dans ma vie, j'étais de nouveau tout seul, et elle aussi, et j'ai réussi à la reconquérir.
Ah.
Ça c'est bien, ouais, j'ai réussi à la reconquérir avec beaucoup d'explications, etc., etc. Et ce qui s'est passé après, c'est que là, elle a réfléchi à toute notre nouvelle relation et à un moment elle m'a dit ça va pas être possible. Elle m'a fait un deuxième chagrin dans le sens où là c'est elle qui m'a quitté.
Et pour de bon cette fois-ci.
Et pour de bon cette fois-ci. Oui. Et là elle était hors de question qu'elle revienne. Et donc là j'ai vraiment été malheureux et j'ai vraiment eu un chagrin d'amour. Alors j'ai eu de la chance que quelque part derrière j'ai re-rencontré quelqu'un qui m'a permis d'avoir un petit peu, ça dure moins longtemps, on va dire, mais j'ai été très mal pendant une bonne période.
À la fois, on voit bien cela, on voit aussi quand même qu'après son premier divorce, il se précipite un peu dans une relation et, oui, et d'un seul coup, il prend conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui recommence et qui lui fait peur par rapport à la souffrance qu'il vient de vivre. Donc lui-même s'éloigne parce que personne n'aime au fond souffrir, mais en s'éloignant, il fait souffrir l'autre. Voilà. Et donc, tous les deux, il faut qu'ils retrouvent une phase de relative solitude, précisément la solitude est ce qu'il y a de plus difficile à supporter pour l'être humain, et mettre leur solitude en commun. Mais à ce moment-là, le passif entre les êtres humains, c'est quelque chose qui est très difficile à effacer. Et au fond, peut-être que votre compagne avait ce passif de souffrance que vous lui aviez, je dirais, fait subir.
Ouais.
Elle vous l'a fait subir à son tour, d'une certaine manière. Elle vous a refilé le paquet, oserais-je dire.
Ouais, tout à fait. Et voilà. C'est pour ça que j'ai eu deux chagrins d'abord. Ouais. En l'espace de très peu de temps, parce que c'était
quand
un peu
on...
ça, quoi.
Mais en fait, Christophe, je crois que ça, c'est valable pour tous, quand on reprend une histoire, alors que c'est soi-même qui avons provoqué la rupture,
oui,
il faut toujours être très prudent, et je crois qu'il y a vraiment... Il y a un nettoyage à faire.
C'est compliqué.
Et oui, c'est compliqué l'amour, mais c'est pour ça, ouais, que c'est passionnant.
Enfin voilà, je voulais témoigner, parce que je trouvais, merci, que c'était un double chagrin, c'est très rare quand même, en petit peu de temps. Et
presque
voulais...
triple, hein,
si on rajoute le divorce. Oui, on démarre sur la première chose, ouais, le premier divorce. Voilà, effectivement, donc c'était, voilà, je voulais raconter un peu mon histoire.
Et ben je vous souhaite de rencontrer un nouvel amour rapidement.
Eh ben c'est déjà il s'est passé du temps depuis et aujourd'hui ça va très très bien.
Bon,
et
bah alors, ça va bien.
Le ton de sa voix nous dit que Christophe est en pleine phase d'euphorie.
C'est parfait. Bon, soyez amoureux, ne soyez pas dans l'état amoureux, Christophe.
Tout à fait, j'ai bien compris la différence.
Et déjà, Jérôme Soubiran est en train de tirer les trois cartes auxquelles il va falloir que nous répondions dans un instant.
RMC, vous aimiez les femmes avant? Vous allez les adorer.